Naviguer entre les disciplines, faire dialoguer les sciences, de la physique à la médecine en passant par les mathématiques ou l'astronomie, mettre en commun des recherches et des découvertes, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Face à la complexité croissante du monde, à l'éclatement de la connaissance et à la pluralité des savoirs, cette collaboration semble intéressante, n'oserais-je dire nécessaire. Mais est-ce si facile de faire travailler des scientifiques entre eux? Dans quelle mesure est-ce utile et comment doit s'opérer cette interdisciplinarité? Je m'appelle Josepha Lopez, on en parle avec mes invités dans La Fabrique du Savoir, un podcast réalisé en partenariat avec l'espace Mendès France.
La Fabrique du Savoir.
Avec moi en plateau pour ce podcast que nous enregistrons masqué, trois invités. Jean Jouzel, bonjour. Vous êtes paléoclimatologue et une figure mondialement reconnue pour vos travaux de recherche sur l'évolution du climat. Vous avez aussi été vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015 et vous avez reçu de nombreux prix comme la médaille d'or du CNRS qui est la plus haute distinction scientifique française. Vous êtes aussi co-auteur de Climat parlons vrai avec Baptiste Denis aux éditions Les Pérégrines. Valérie Delattre, bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP. Alors l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. On détaillera le contenu de vos projets un peu plus tard dans ce podcast, car c'est passionnant. Vous êtes également co-autrice avec Vincent Bergier de l'ouvrage Jeunesse « Il était une fois la différence, les archéologues racontent le handicap » chez Actes Sud, paru en 2020, et de « Handicap, quand l'archéologie nous éclaire » aux éditions Le Pommier en 2018. Bienvenue. À vos côtés également, Jean-Louis Yengue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et professeur des universités à Poitiers. Vous travaillez notamment sur les relations entre les hommes et le végétal. Le but, dégager des perspectives d'avenir dans un contexte de changement climatique et de mondialisation. Et vous préparez également un livre à paraître sur les services de la nature en ville. Les présentations sont faites. Ma première question est assez simple. Est-ce que vous auriez pu, par vos disciplines, travailler ensemble?
Oui, bien sûr.
Oui.
Moi, j'ai des collègues qui travaillent. Bien sûr, on a, disons, tout ce qui concerne l'archéologie. Il y a beaucoup de liens, disons, en tout cas, ou l'histoire humaine avec avec le climat. Il y a un lien très fort. Et donc, il y a souvent des... Enfin, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup avec des archéologues. Nous avons même des archéologues... Enfin, des... Il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire les datations qui sont faites dans nos laboratoires. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas directement impliqué, mais il y a vraiment des liens. Et avec le végétal, eh bien, c'est très important par rapport à la fois au climat, mais aussi au cycle du carbone. Il y a une grande importance. Et bien sûr, tous les problèmes de biodiversité sont essentiels dans cette transition que nous vivons.
Valérie Delattre, je vous vois incliner la tête. Vous aussi, vous auriez pu travailler avec vos... Deux compagnons de podcast.
Je travaille sur l'être humain, donc l'être humain, il n'est pas tout seul sur Terre, il est inscrit dans un environnement, donc dans un climat. Les climats influent sur ses façons de vivre, ses façons de manger, de pratiquer ses cultes. Donc l'archéologie des climats est extrêmement importante. Un grand volcan au 14e qui va assombrir l'humanité va avoir des résonances forcément sur l'être humain. Et je travaille beaucoup sur l'alimentation. C'est extrêmement important, notamment, de savoir comment les gens géraient leur rapport aux céréales. Et donc, on travaille sur les isotopes, on travaille sur un tas de choses. Maintenant, l'infiniment petit devient extrêmement important. Donc, on aurait pu travailler tous les trois aisément et faire se connecter nos disciplines.
Jean-Louis Henguet.
Moi, je suis géographe. On dit souvent la géographie est la science carrefour. Et dans mes recherches, bien évidemment, travailler avec les autres est l'essence même du géographe, j'allais dire.
L'interdisciplinarité est une innovation, a dit le sociologue et directeur de recherche au CNRS, Marc Jolivet. L'agronome et biométricien Jean-Marie Leguet a même parlé d'une découverte. Est-ce que vous êtes d'accord?
Pour moi, ça semble une nécessité, enfin, disons, dans nos disciplines. Enfin, voilà, donc... Moi, je m'intéresse avant tout à l'évolution du climat. On a déjà toutes ces disciplines. Déjà, dès au départ, bien sûr, on retrouve les isotopes. Moi, je suis géochimiste, aussi isotopique, je dirais. Voilà, donc, mais on a aussi des mathématiciens, des physiciens, des chimistes. Sur le climat, s'intéressent également, bien sûr, des spécialistes de l'agriculture, de l'alimentation. Voilà, mais aussi, ça, c'est très large. Il y a toutes les conséquences du réchauffement climatique, tous les problèmes liés à la santé, et bien sûr les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Des philosophes s'intéressent au climat. Il n'y a pas de discipline qui puisse se dire, et bien sûr les géographes, quelquefois je me plains d'ailleurs que les géographes français ne s'intéressent pas assez au climat. Par exemple, quand on va ne serait-ce qu'au Royaume-Uni, ce sont vraiment les géographes qui s'intéressent en premier lieu au climat, ce qui n'est pas le cas en France forcément. Mais voilà, donc il y a toutes les disciplines, surtout et bien sûr l'histoire. Bien sûr, moi qui suis paléoclimatologue, eh bien, quand on regarde les climats récents, donc sur les périodes qui vous intéressent, Valérie, eh bien, c'est aussi beaucoup de reconstruction climatique. Ça va bien sûr des archives historiques, des gens célèbres comme Emmanuel Leroy-Ladurie, mais, et puis aussi des archives à partir des anneaux d'Arte, des glaces polaires. Donc, c'est tout cela que l'on retrouve. Donc, dès au départ, j'ai été plongé dans cet univers, je dirais, multidisciplinaire.
Et quand Marc Jolivet parle d'innovation, c'est que ça n'existait pas avant.
Ouais. Je pense que c'est peut-être une innovation dans la méthode, dans les façons de faire. Parce que je pense à mes anciens géographes, Humbel et d'autres, ils étaient à la fois géographes, écologues, médecins, juristes, etc. Donc, ça se faisait déjà. Aujourd'hui, les disciplines ont été cloisonnées pour raisons diverses et variées. Et maintenant, on travaille sur des objets. Il y en a obligé de trouver des méthodes pour faire ensemble. Et c'est peut-être ici où il y a l'innovation.
C'est lié à la complexité aussi de certains objets d'études qu'il faut travailler ensemble, relier les disciplines pour réussir à trouver, à découvrir.
C'est lié au questionnement qu'on a aussi. C'est-à-dire que moi, je travaille sur le squelette humain. Donc, le squelette humain, il est dans une sépulture que des proches ont constituée. Donc, il est en tant qu'objet biologique à étudier. Et il a aussi une composante culturelle avec les objets qui sont déposés, l'orientation d'une tombe, etc. Donc, je suis obligée, mais c'est une gourmandise et une curiosité, de travailler avec tout un tas de collègues, céramologues, spécialistes du métal, spécialistes des rites, de certaines chronologies. Donc ça, c'est la partie visible. Et puis après, on peut questionner aussi l'infiniment petit, l'invisible. Et on a un questionnement nouveau, qui est innovant depuis quelques années. On va travailler avec la paléogénétique, qui ouvre des horizons incroyables. Au sein d'une même nécropole, on arrive à restituer des filiations, ce qui est quand même assez fabuleux quand on regarde nos squelettes et on se dit un tel est le père et de cette sûr. Femme. Et puis on peut travailler aussi, on découvre actuellement le strontium qui nous permet de savoir où était né ou a grandi un sujet. Ça nous donne une amplitude incroyable sur les mouvements de population. Parler des migrations, c'est extrêmement intéressant. Il y a des migrations de peuples, des itinéraires singuliers aussi. Donc tout cet infiniment petit et très nouveau nous questionne et nous fait travailler avec des labos nouveaux, des scientifiques nouveaux. Et nos sphères d'intérêt se cherchent un peu, se tutoient. Et en fait, on a un fil conducteur commun qui est l'humain. Et donc, on s'enrichit mutuellement. Et ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment un plaisir gourmand.
Alors, quand je vous écoute tous les trois, cette interdisciplinarité semble particulièrement intéressante. Concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez une étude, des recherches, quand est-ce qu'on va chercher une autre discipline? Quand est-ce qu'on fait appel à un confrère pour aller plus loin, pour répondre à des questionnements?
Alors, à Poitiers, je dirige une fédération de recherche qui s'appelle la Fédération de Recherche Territoire, qui met autour de la table sept disciplines de différentes obédiences pour travailler sur les questions de territoire. Alors nous, au quotidien, on invente cette pluridisciplinarité. Ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant, on identifie un objet relativement vaste. L'année prochaine, ce sera les terroirs, par exemple. Et autour d'un cycle de conférences, on fait converser les collègues entre eux et on s'astreint à faire un ouvrage collectif. Donc, on part de l'objet et à partir de l'objet, chacun ensuite tire des ficelles de sa discipline pour arriver à un ouvrage collectif. C'est une façon de faire.
Jean Jouzel, comment vous travaillez-vous?
Oui, donc nous aussi, nous avons... je suis au sein d'un grand institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc où on retrouve toutes les disciplines qui s'intéressent à l'évolution du climat. Ce sont plus, disons, 1500 personnes en tout au niveau de l'Île-de-France. Et effectivement, mais ça n'empêche pas les collaborations extérieures d'ailleurs, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai qu'on, disons, de façon assez naturelle, dans nos laboratoires, nous avons des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, mais aussi... disons bien sûr beaucoup d'informatique, de modélisation, et il faut aussi aller sur le terrain, donc des logisticiens, donc c'est tout cela, toute cette chaîne. Quand on regarde, les travaux auxquels j'ai participé, c'est aller sur le terrain chercher des carottes de glace, c'est tout un travail, avec des spécialistes, et puis après des analyses au laboratoire, des modélisations pour confronter ces résultats, donc tout ça, cette chaîne, elle est très souvent en collaboration, et puis ce qu'on met aussi souvent dans nos disciplines sont vraiment les collaborations internationales. En effet, beaucoup des projets auxquels j'ai eu la chance de participer étaient des projets, disons, de coopération internationale. À Vostok, c'était avec les soviétiques à l'époque, mais ensuite beaucoup de projets européens. L'Europe a beaucoup apporté dans nos disciplines par rapport à cette, disons, collaboration qui est forcément, disons, pluridisciplinaire avec parce que bien là, dans nos domaines, eh bien, il y a beaucoup de façons de progrès aussi faits dans les analyses de carottes de glace, dans les interprétations. Donc, c'est tout cela qui est... Et ça, c'est... je crois que c'est quand même... comme vous l'avez dit, ça, c'est facilité par le regroupement au sein soit d'universités, soit dans l'autre cas, c'est même plusieurs universités, disons, de ces aspects pluridisciplinaires et de les mettre au centre vraiment du développement. Voilà, mais c'est vrai aussi, on ne peut pas ne pas évoquer les difficultés de l'interdisciplinarité, on le fera peut-être.
On va en parler.
Je crois.
Aujourd'hui, finalement, donc, l'organisation des universités, l'organisation des laboratoires permet peut-être cette interdisciplinarité. C'est vrai que quand on parle au grand public d'un scientifique, on imagine une personne avec une blouse blanche seule derrière sa paillasse. On n'est plus du tout là-dedans.
Non. Valérie Delatte. Ben, en fait, moi, je travaille dans un institut qui fait de l'archéologie préventive. Donc, en fait, on galope derrière l'aménagement du territoire. Je ne sais jamais où je vais travailler et sur quoi je vais travailler. Alors, c'est jubilatoire, mais c'est aussi un déséquilibre permanent. Mais et on travaille en réseau. Donc, au sein de l'INRAP, on a tout un tas de spécialistes. Puis après, on a des laboratoires, on a des UMR, des unités mixtes de recherche où on peut dialoguer. Et en fonction de l'avancée d'un chantier de fouilles, de l'arrivée des spécialistes, un contexte funéraire, on va voir l'anthropologue, le céramologue, l'archéozoologue, etc., en fonction. Et puis, ben, on peut questionner un laboratoire de radiocarbone si on a un doute pour une datation. Si on a un sujet qui présente des pathologies, ben, on fait intervenir un paléopathologue. Donc, on construit à mesure notre interdisciplinarité pour arriver à construire quelque chose qui soit cohérent et qui réponde à notre questionnement. Donc, ça se fait au fil de l'eau, même si on a un réseau dense de labos, de collaborations nationales, internationales, de petits coups de fil, de mails, et voilà, et ça se nourrit et c'est stimulant.
Alors, plusieurs disciplines qui parlent ensemble, est-ce que ça, il n'y a pas parfois quelques problèmes de langue? C'est-à-dire, est-ce que tous les scientifiques réussissent à se parler, à se comprendre? Est-ce qu'un chimiste va facilement parler avec un géographe? Est-ce qu'un paléoclimatologue va facilement parler avec, je ne sais pas, un médecin? Est-ce que c'est toujours facile, cette collaboration?
Non, non. Il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur un vocabulaire commun. Ouais. Et dans les projets dans lesquels j'ai travaillé, qui allient parfois plusieurs disciplines. Alors dans l'interdisciplinarité, il y a interdisciplinarité. Hein. Donc il y a les sciences humaines qui sont entre elles et les sciences non humaines qui sont entre elles. Mais parfois et souvent, c'est les deux qui se croisent. C'est encore le mélange du pas simple. Et souvent, quand on mélange les sciences exactes et non exactes, alors je fais très simple, mais c'est plus compliqué que ça, souvent le vocabulaire n'est pas le même. Et donc déjà, il faut être d'accord sur ce dont on parle. Et je l'ai mis en œuvre très concrètement sur un projet que j'ai mené et qui a débouché sur un ouvrage sur les terroirs viticoles. Et on ne parlait pas de la même chose entre le chimiste, entre l'archéologue, le géographe ou encore le botaniste. Et juste avant de répondre à l'appel à projet, parce que c'était un appel à projet, on a dû faire des séances de définition, de calage, c'est comme ça qu'on appelait, pour se mettre d'accord. Et c'est déjà pas simple de se mettre d'accord entre ces différentes disciplines.
On a des plus petits communs dénominateurs en termes de langage. C'est-à-dire que, en ce moment, en anthropologie, on travaille beaucoup avec les paléogénéticiens. C'est vraiment une science extrêmement compliquée. Donc, chacun doit faire un pas vers l'autre. Nous, on leur explique ce qu'on fait et les besoins qu'on a, pourquoi on fait appel à eux. Et en retour, on n'apprend pas la génétique ou la paléogénétique, mais ils nous donnent des clés pour savoir comment les interroger et pour avoir de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'on ne s'encombre pas, mais chacun va droit au but, en fait. Parce que ce sont des on a un fil conducteur commun, mais on ne parle pas du tout la même langue. Et parfois, c'est compliqué. Donc, on se forme. Moi, je forme des paléogénéticiens de la chronologie, un petit peu d'anthropologie, d'ostéologie, et on a des cours de génétique succincts, mais pour éviter de faire des erreurs et de se tromper. Mais c'est passionnant de découvrir des mondes nouveaux et de faire résonance, de tisser des liens. Et donc, apprendre une langue étrangère, c'est tout bénéfique.
Cette complexité, Jean-Jodel.
Oui, moi, je situerais plutôt deux niveaux. D'abord, disons, au sein d'un laboratoire, nous sommes habitués à collaborer depuis, entre physiciens, chimistes, géochimistes, aussi mathématiciens, théoriciens du climat. Donc, quand on a cet objet climat, disons que la compréhension des mécanismes climatiques, je dirais, on a un certain vocabulaire commun, comme vous avez dit à juste titre. Donc ça, c'est un niveau de collaboration, d'interdisciplinarité, mais qui est relativement facile. Là où, effectivement, on a peut-être, et j'ai eu la chance de le faire, c'est quand on commence à discuter, c'est tout à fait nécessaire dans nos disciplines, avoir des projets avec des sociologues, des juristes. Voilà, et là, effectivement, on a à définir, d'ailleurs, une des dernières contributions que j'ai faites, c'est la préface d'un ouvrage sur un lexique des climatiques pour les juristes. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc, j'en ai simplement écrit la préface, mais on voit bien qu'il y a cette nécessité de définir les termes de façon commune.
Dans un autre de ces podcasts, donc La Fabrique du Savoir, l'un d'eux porte sur le dialogue entre la science et la société. On voit que la vulgarisation est parfois nécessaire. Finalement, entre disciplines, vous devez aussi apprendre à vulgariser votre propos.
Peut-être se faire comprendre. Voilà, se faire comprendre pour avoir des bases communes pour pouvoir travailler. Alors, dans la pluridisciplinarité, il ne s'agit pas, par exemple, pour le géographe, de devenir historien, surtout pas. Ça, c'est vraiment le cas à éviter. Rester géographe, mais écouter et entendre ce que l'autre dit pour pouvoir nourrir ses propres recherches. Et là, c'est plus compliqué.
Jean Jouzel, vous avez parlé tout à l'heure de l'international. Comment se situe la France en matière d'interdisciplinarité?
Alors, bon, une réelle interdisciplinarité, par exemple, je pense qu'on n'a peut-être pas... justement, avec les géographes, on peut peut-être en parler, on n'a peut-être pas les collaborations. Quand on regarde, par exemple, les conséquences du réchauffement climatique et l'adaptation au réchauffement climatique, on va prendre un objet concret. Donc, ça fait appel à... Bon, pour moi, ça devrait être le travail des... Enfin, les géographes devraient être vraiment très, très présents. Ils ne sont pas très en France. Enfin, on peut en discuter. Mais voilà. Donc, il y a aussi l'aménagement urbain. On voit bien que ça fait appel à toutes les disciplines, les sociologues, y compris là. Voilà. Et donc, c'est là où est pour moi la vraie interdisciplinarité. Et je pense que c'est peut-être plus développé au Royaume-Uni que chez nous, pour répondre à votre question, par rapport à ce problème d'adaptation au réchauffement climatique. On n'a pas assez de recherches, de travaux communs sur l'adaptation. Adaptation au réchauffement climatique, par exemple. J'essaye de prendre un exemple concret.
Puisque vous parlez de géographes, c'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, mais vous le savez très bien, il y a pas mal de collègues géographes qui commencent à s'investir sur ces questions-là. Alors, au début, c'était juste un vernis au-dessus. Oui. Alors, tous les travaux, c'était les mêmes dans un contexte du changement climatique. Mais depuis quelques années seulement, on commence vraiment à rentrer dans le dur. Et là, vous avez raison. C'est vrai qu'en Angleterre, ça se fait un peu plus, mais parce que le contour de la géographie en Angleterre n'est pas exactement la même que celui d'aujourd'hui.
Oui, mais là, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on ne souffre pas en France de la séparation entre géographie humaine et géographie physique, qui reste quand même, à mon avis, une erreur stratégique qui fait que... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous-même, entre géographie humaine et géographie physique, est-ce qu'il y a de réelles collaborations?
C'est vrai qu'il y a eu ce divorce dans les années 60, on ne va pas faire l'épistémologie
de la géographie. Non, mais d'accord,
entre géographie physique et géographie humaine. Mais aujourd'hui, on se réconcilie, on parle des questions d'environnement, on parle des questions d'enjeux climatiques, qui recroisent bien sûr géographie physique et géographie humaine. Mais le rapprochement... est en cours, il est en train de se complexifier, il est en train de progresser. Et on arrive à le faire parce que des questions telles que le changement climatique nous parlent tous et on y travaille, bien sûr.
Alors, pour tous les trois, donc, vous menez des recherches. Le but, c'est aussi d'en parler, de les mettre en avant. Est-ce que cette collaboration entre les disciplines doit aussi aller des fois au-delà des sciences pour faire parler de certains domaines? Je pense notamment, Jean Jouzel, vous avez, par exemple, signé des pactes, vous avez travaillé avec des hommes et des femmes politiques pour mettre en avant vos domaines. Est-ce que cette interdisciplinarité, là, n'est plus scientifique, mais en tout cas, ça permet aussi de faire parler de...
Oui, je pense que, notre devoir de scientifique est de ne pas rester dans notre tour d'ivoire. On doit vraiment communiquer. Moi, j'ai le sentiment que la communication vers l'extérieur fait partie de notre travail complet. Dans le cas de ma discipline, c'est vrai que ça s'est très rapidement ouvert vers les décideurs politiques, puisqu'on voit bien que disons, les résultats que notre communauté amène sur l'évolution du climat, si on y croit, et maintenant les gens commencent à y croire, eh bien, amène forcément des décisions dans notre vie de tous les jours. On voit bien, il y a, disons, c'est le domaine, ce n'est pas le seul, où, je dirais, les résultats produits par la communauté scientifique ont tout de suite des conséquences, en gros, sur l'organisation de la société, ou devraient avoir des conséquences sur l'organisation de la société. Elles en ont, d'ailleurs. Donc, ça amène forcément... disons que j'ai été sollicité... d'abord, la visibilité s'est faite à travers les médias, et puis après, les politiques vont être effectivement vers les scientifiques qui ont effectivement une certaine visibilité médiatique. Et bon, voilà, j'ai été contacté avec Jacques Chirac, et puis ensuite avec Nicolas Sarkozy pour le Grenelle d'environnement, avec bien sûr François Hollande pour l'accord de Paris, et également avec Emmanuel Macron. Donc j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec tous ces présidents de la République sur ces problèmes d'évolution du climat, de mesures à prendre. Et voilà, et je viens tout juste d'une réunion où c'était plus politique encore ce matin. Pour moi, ça va jusqu'à l'engagement politique de citoyen, ce que je ne faisais pas tant que j'étais membre du GIEC, parce qu'on a un certain devoir de réserve. Mais je n'y suis plus, effectivement, depuis ce temps-là. Je m'engage plus en tant que citoyen. Enfin, je m'engage non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyen, ce que je faisais moins quand j'étais membre du GIEC. On nous demande d'avoir un certain devoir de réserve, ce qui est tout à fait normal.
Alors, comment améliorer cette interdisciplinarité à l'école? On va en cours de chimie, puis ensuite à celui de physique, puis ensuite à celui de géographie. Jamais, en tout cas dans mon souvenir, ou quasiment jamais, on ne fait discuter les disciplines et on nous fait comprendre que telles ou telles peuvent être liées les unes avec les autres. Est-ce qu'il faudrait revoir cet apprentissage des sciences peut-être plus tôt pour que, dès le plus jeune âge, on comprenne que tout est lié, Valérie Delarte?
Alors, je ne vais pas refaire les programmes de l'éducation scolaire. Il est probable, oui, qu'il faille faire en sorte que les choses soient moins cloisonnées. Alors, que ce soit dans les programmes scolaires, pourquoi pas, mais aussi dans toutes les activités annexes, dans l'engagement, vous parlez d'engagement citoyen, dans l'engagement associatif, dans tout le parascolaire, on pourrait évidemment développer ce genre de choses. On fait tout un tas de sensibilisations à des disciplines, à des sciences, on apprend plein de choses par l'art, on apprend plein de choses par le sport, donc évidemment, toutes ces disciplines doivent être en résonance. Témoigner et restituer, je pense que c'est aussi une de nos missions. Moi, je fais partie du service public et j'en suis très consciente et je suis très motivée par ça. Et l'archéologie se saisit notamment depuis quelques années de thématiques comme on fait une archéologie de la violence, on fait une archéologie des migrations, une archéologie du genre. Moi, je travaille beaucoup sur la vulnérabilité et le handicap. Et donc, on restitue notre travail. Et c'est une forme d'éclairage dont le législateur, les grandes associations, les citoyens s'emparent. Puisque ce qui s'est fait dans le passé, c'est pas un cours magistral, mais ça peut éclairer, ça peut inspirer. Et donc, il y a une nouvelle forme d'archéologie qui s'extirpe un peu de tout ce qui nous est cher et passionnant, c'est-à-dire l'entre-soi, le jargon qui est passionnant, qui se nourrit de colloques, qui se nourrit de tables rondes, qui fait avancer la recherche. Mais l'archéologie, c'est pas que de la typochronologie dans des cases, C'est aussi de l'humain, c'est aussi de la société. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on arrive à faire de la pédagogie, à faire de la sensibilisation, à intéresser les gens. Donc, ça peut commencer à l'école, mais ça commence, je pense, à intéresser tous les âges.
Ça s'arrête jamais, en fait.
Non.
Jean-Louis Yenge, vous êtes professeur, justement, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous apprenez à vos élèves à travailler ensemble et à aller voir d'autres disciplines?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est peut-être le propre de la géographie. Nous, en géographie, notre paillasse n'est pas du matériau, je vais pas faire des carottes de glace, je vais pas faire des prélèvements sur des momies. Mon matériau, c'est les hommes et les femmes qui nous entourent, en fait, qui viennent de disciplines différentes, qui viennent de parcours différents, c'est avec eux qu'on discute au quotidien. Et dès la troisième année chez nous, par exemple, les étudiants, on les fait travailler sur ce qu'on les appelle des projets collectifs, des projets tutorés, des commandes faites par des collectivités pour vous accompagner à résoudre des problèmes territoriaux. Et c'est des expériences de vie, pratiquement. Là, c'est vraiment des lieux où la pluridisciplinarité se met vraiment en œuvre. Tout à l'heure, on parlait des élèves, des plus jeunes. Je pense qu'il est aussi important de les apprendre les bases de chacune des disciplines. On ne peut aller dans la pluridisciplinarité que si on est fondé dans une discipline. Sinon, on ne comprendra pas grand-chose à la science. Donc, il y a un juste milieu à doser, en fait, entre la discipline et la pluridisciplinarité. Et ça aussi, c'est pas simple.
l'interdit.
Oui, j'ai le sentiment que, enfin, la réforme des programmes par rapport à, disons, ce qu'on a de commun, s'intéresser à ce qui nous entoure, à l'environnement humain ou, disons, naturel qui nous entoure, il y a quand même eu des progrès faits dans les récentes réformes aussi bien du primaire que du secondaire, à savoir que bon, disons, les enseignants de chimie sont encouragés à mettre un peu d'environnement dans leur enseignement, de même, y compris dans toutes les disciplines. Donc ça se fait dans ce sens-là. Il n'y a pas de cours sur le climat complètement ou sur l'environnement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que le climat, la biodiversité, tout est important. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un progrès et que ça peut servir de lien. Et disons, voilà, moi j'ai un peu le même problème maintenant, je me permets de le citer, puisque je préside un groupe de travail auprès de Frédéric Vidal sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. Donc c'est justement comment on fait pour... Parce qu'il nous semble que justement l'enseignement supérieur ne répond pas à cette mission de... Disons, en gros, il y a beaucoup de... Disons, d'étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur sans savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de biodiversité ou de climat ou de ce que l'on parle aujourd'hui. Et ça, c'est justement une des tâches. On va rendre notre rapport dans quelques semaines maintenant, des recommandations. C'est très important. Donc, et je m'y investis à ce titre-là. Et donc, avec cet esprit de pluridisciplinarité, d'emmener effectivement la lettre de mission est claire. Comment on fait que 100% des étudiants, quelle que soit leur filière, sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique, impact du climat, au sens large, y compris les aspects sociétaux. Et c'est cela. Et j'espère qu'on arrivera effectivement à en faire un lien dans les enseignements. Mais je suis d'accord avec Jean-Louis, il faut absolument aussi garder une force dans la discipline. On ne peut être, ça je suis tout à fait d'accord, la pluridisciplinarité, ce n'est pas simplement picorer de ci et de là. Il faut vraiment avoir un socle très fort dans sa propre discipline.
Alors, on parlait tout à l'heure d'interdisciplinarité qui pourrait aller au-delà des sciences. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'inclure davantage sur certains domaines, pas tous bien sûr, mais les citoyens par exemple?
Oui, la science participative, on le fait beaucoup. Hein. Ouais. Alors, les citoyens chez nous sont le débouché de notre science, mais en même temps l'origine. Donc il y a ces allers-retours qui le font, dans lesquels on le fait souvent. L'espace Mendès France de Poitiers, qui est ce lieu de culture scientifique, j'y vais présenter mes travaux, mais je vais également écouter les autres qui vont me nourrir. Donc il y a cet aller-retour-là, et donc forcément, ils sont inclus, hein, monsieur tout le monde, dans nos travaux quotidiens.
Avec l'archéologie, moi, c'est tout bénéfice. Hein. Tout le monde a voulu être archéologue petit, tout en Camon et d'Indiana Jones. Donc, c'est facile de restituer nos travaux. Il y a des grands rendez-vous annuels. Il y a les journées du patrimoine, il y a les journées européennes de l'archéologie. C'est un rendez-vous très précieux pour échanger avec nos concitoyens qui sont curieux de savoir... de connaître nos travaux et de savoir leur histoire. Leur histoire, elle est très ancienne et ils en sont fiers. Donc, on a un échange constant. On fait aussi beaucoup de sensibilisation en école. On fait des publications jeunesse, on fait des publications grand public. C'est vraiment une nécessité. C'est même une mission service public et on en est très fiers. Il faut savoir aussi dupliquer nos travaux en fonction des lectorats et des publics concernés.
Donc pour vous, les échanges doivent être vraiment verticaux. On n'est pas sur le chercheur, le scientifique, comme peut l'imaginer souvent le grand public. Le scientifique sur son piédestal qui va apporter les connaissances. Pour vous, l'échange est primordial.
Oui, alors il y a dans ces aspects sciences participatives qui tiennent un rôle important, par exemple tout ce qui touche l'observation de la nature, hein, l'évolution de la biodiversité, il y a beaucoup d'exemples, mais aussi il y a l'observatoire des saisons qu'on peut citer, aussi plus proche du climat. Mais c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer dans l'autre sens, c'est-à-dire moi j'ai vécu la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est enfin en tant que membre du comité de gouvernance, mais il y a eu vraiment un échange entre la communauté scientifique et les citoyens. Et d'ailleurs, je crois que les recommandations qui ont été faites par les citoyens sont extrêmement pertinentes, mais ça s'est appuyé vraiment sur un échange avec la communauté scientifique.
Peut-être pour terminer ce podcast, un conseil que vous pourriez donner à vos collègues, aux scientifiques, peut-être même au grand public pour aller plus au contact des scientifiques, pour justement permettre cette interdisciplinarité.
Ça a été dit par Jean-Louis, donc c'est vraiment... communiquer vers l'extérieur, ça fait partie de notre travail, mais aussi aller écouter les autres. C'est pas simplement aller, bien sûr, ces échanges, disons, plutôt style grand public qui sont importants. Voilà, donc c'est aller s'enrichir de l'écoute des autres, de la lecture des autres aussi. Moi, je lis énormément et voilà, c'est ça la force. Être chercheur, c'est aussi beaucoup lire, beaucoup bon, écouter bien sûr, mais même lire. Lire, et c'est, moi, je passe beaucoup de temps derrière des revues et ça enrichit énormément et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je sais pas, alors, des conseils des chercheurs, c'est ça, c'est d'être ouvert sur les autres disciplines, soit à travers des conférences, mais aussi, bien sûr, des lectures. Pour les jeunes, en général, eh bien, c'est quand même merveilleux d'être chercheur. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Moi, j'encourage, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, à se tourner vers la recherche, s'ils le peuvent.
C'est vrai que, pour rebondir, aimer écouter les autres, aimer sortir de sa zone de confort pour aller apprendre, le doute cartésien, ce qu'on trouve aujourd'hui est souvent remis en cause demain, par nous, par d'autres disciplines, avoir cette culture au quotidien, en fait. On n'a jamais totalement raison. On est tout le temps dans le doute. Et, encore une fois, je le répète, parce que c'est important, sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. On est confortable dans notre discipline, mais en allant écouter les autres, on se sent petit. Et peut-être se sentir petit, c'est aussi ça, être un grand chercheur.
Lire, étudier, publier, être curieux et s'enrichir mutuellement. Et il y a plein de débouchés professionnels qui se profile dans les métiers de la recherche, quels qu'ils soient. Donc, allez-y, que la jeunesse se lance dans toutes les sciences. Il y a plein de choses à faire. Et puis, c'est du sport collectif. Donc, il faut y aller.
C'est un bel appel à candidature pour tous les futurs étudiants dans la recherche. Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience.
Merci beaucoup. Ce podcast
vous a plu, à vous, auditeurs. Retrouvez 4 autres épisodes de notre série La Fabrique du Savoir, produite en partenariat avec l'Espace Mendès France, des podcasts diffusés sur lemonde.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. À très bientôt.